France Inter.
La vision, le rêve, l'utopie, le tressaillement comme ça de l'expression, le renouvellement de tous les systèmes de représentation, la mise à mal de toutes les rigidités, moi je pense que c'est comme ça qu'on fonde de nouvelles politiques.
Mon expérience d'anthropologue consiste à observer des espaces de frontières. La frontière, c'est une épreuve de la rencontre. Si on la refuse, eh bien, on met en œuvre un certain nombre de préjugés à propos de personnes, de choses qu'on ne connaît pas.
Patrick Chamoiseau arrive de Fort-de-France avec dans ses bagages un livre intitulé « Que peut littérature quand elle ne peut ?» Titre a priori énigmatique, mais lecture revigorante quand on prend la peine d'ouvrir l'ouvrage paru au Seuil. Il s'agit de prouver que la littérature a un rôle politique et poétique, qu'elle peut, sinon nous sauver de la violence du monde, du moins nous aider à la supporter. Bonjour Patrick Chamoiseau.
Bonjour.
Je rappelle que vous avez obtenu le Goncourt avec Texaco en 1992 et que la culture créole vous doit beaucoup, vous l'avez étudié, théorisée et transmise. Vous êtes venu accompagner, c'est le principe du grand atelier, de Michel Agier. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ethnologue, anthropologue, directeur de recherche entre autres à l'EHESS, vous proposez Racisme et culture au Seuil. Le racisme, l'étranger, la peur des autres, les conditions de vie des migrants sont des thèmes que vous étudiez et que vous partagez dans des livres. Et puis nous irons à Roubaix dans un très beau musée, la piscine. Il commence bientôt deux expositions dont une consacré aux sculpteurs Rodin et Bourdel. 17h06, c'est votre magazine culturel sur Inter.
France Inter. Le grand atelier. Vincent Josse.
Eh bien ça y est, Patrick Chamoiseau, vous avez fait le voyage jusqu'à nous, jusqu'à Paris. Je voulais savoir si le premier geste, peut-être après un peu de repos de Patrick Chamoiseau, c'était d'aller dans un café avec un journal et des croissants.
Non, le premier geste, quand on se réveille le matin, il y a le décalage horaire, donc c'est très très difficile. Donc le premier geste, c'est de boire un petit jus de citron, toujours des petits citrons que je ramène de mon jardin, et je me prends un petit verre de citron avec un peu d'eau pour essayer de dissiper la torpeur liée au décalage horaire. Et puis après, je passe au petit déjeuner habituel.
Quoi. Et vous ne fréquentez pas de café alors ?
Non, j'ai pas. On n'a pas la culture du café chez nous. Ici, je vais très peu dans les cafés et le consommer des cafés, je le fais plutôt en Martinique. Ici, mais en Martinique, non, on n'a pas cette pause café régulière. Non, ça n'existe pas encore.
Il faut imaginer Patrick Chamoiseau dans son jardin, alors avec un potager.
Il faut m'imaginer dans mon jardin avec des petites. Thé de citronnelle, brisé, de plantes tropicales, quoi.
Bon, vous savez qu'on arrive la semaine prochaine.
Alors, oui, venez.
Avec Michel Agier. Eh bien, bienvenue à tous les deux dans le grand atelier sur France Inter. On se retrouve juste après une chanson de François and the Atlas Mountain. Parti.
D'autres fêtes m'attendent plus loin des tables et des gants blancs. Les visages des gens, même ceux que j'aimais, n'ont plus de sens ici. C'est l'immense nuit. Thank you.
Atelier sur France Inter.
Patrick Chamoiseau, que peut la littérature quand elle ne peut ce petit livre que j'ai entre les mains, à l'écriture, à l'encre verte sur un fond blanc? Est-ce que c'était une conférence à Strasbourg au départ?
Voilà, je devais participer à Strasbourg, qui était devenue cité du livre ou cité de la lecture. Et malheureusement, je n'ai pas pu. Mais j'avais préparé une petite intervention sur la littérature. Je me suis dit, mais ce serait dommage de remettre ça dans les tiroirs. Et il faudrait partager cela. D'autant que la préoccupation que j'ai toujours lorsqu'on parle de littérature, c'est qu'on a tendance un peu à considérer qu'on serait de l'ordre du divertissement, de la chose accessoire, quelque chose qui est à côté de ce qui est essentiel. Alors que je crois qu'il y a un mode de connaissance littéraire, un mode de connaissance artistique des faits du monde, des situations existentielles qui est absolument déterminant et absolument aussi important que la connaissance scientifique.
Voilà, pour le romancier et l'essayiste et le poète que j'ai en face de moi, la littérature s'intéresse au monde, ne peut pas se faire sans le monde et les bruits du monde.
L'échelle dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est plus l'échelle des échelles nationales. Balzac, il pouvait considérer qu'avec la langue française, il pouvait épuiser la totalité de son réel, alors que Joyce, très rapidement, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout de l'anglais, et même au-delà de l'anglais. Et nous, dans nos pays colonisés, on a été confrontés à ce drame linguistique entre une langue dominée, une langue dominante, la langue française. On a tout de suite été sensible au fait qu'il fallait construire un langage dans les langues qui nous étaient données. Et ce qui nous est donné aujourd'hui à tous les écrivains contemporains, c'est la totalité des langues du monde. Aujourd'hui, à sa table, un écrivain, il perçoit la rumeur de toutes les langues du monde. Et il ne peut pas ne pas avoir le désir imaginant de toutes les langues du monde.
Quelle chance vous avez d'écrire, d'embrasser le monde, Michel Agier. C'est vrai, on envie ce pouvoir des écrivains tel que Patrick Chamoiseau conçoit son métier.
Oui, tout à fait. Et Chamoiseau nous a amené la langue créole en douceur depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a aussi une initiation à ce partage des langages, ce partage des langues, et qui résonne évidemment avec l'anthropologie, avec ce que je fais depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'il y a une fonction de décentrement permanent, d'une certaine façon, se décentrer de soi pour aller écouter ailleurs, à côté ou au loin, et inversement. Et donc, ce va-et-vient, d'une certaine façon, produit un rééquilibrage, et pour moi, c'est tout à fait essentiel. Et
surtout
pour l'anthropologie,
que vous êtes un grand...
ce rééquilibrage est essentiel.
Vous êtes un grand voyageur, vous avez vécu, pas simplement voyagé, vous avez vécu au Brésil, vous avez vécu quasiment avec les migrants de Calais, vous êtes allé, si je ne m'abuse, en Colombie également.
Au Cameroun.
Au Cameroun, vous connaissez l'Afrique comme votre poche. Et donc ce livre de Chamoiseau ne vous est pas étranger, puisqu'il nous raconte le monde qui souffre. Il parle de la douleur des migrants, de celle des Palestiniens de Gaza, des familles d'otages israéliens. C'est encore une fois cette idée que la littérature a le droit d'aller partout.
A le droit d'aller partout et doit se positionner le plus souvent là où il y a de la souffrance et là où il n'y a pas de pouvoir actif. Il y a deux notions qui me paraissent importantes. Je crois que c'est le chanteur Bernard Lavilliers qui racontait une rencontre qu'il a eue avec François Mitterrand, oui, à l'époque où il était président. Et François Mitterrand lui dit d'un air un petit peu taquin et condescendant, « Alors, vous êtes toujours dans les causes perdues et les musiques tropicales. » Et Lavilliers répond « Oui, exactement. » Et il va en faire le titre d'un album. C'est pour montrer qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si ce que nous voyons dans le monde n'existait pas. L'échelle d'exercice de la poésie et de la littérature, c'est la totalité monde. Pourquoi ? Parce que depuis la colonisation, toutes les cultures, toutes les civilisations se sont rencontrées. Ensuite, on a eu les accélérations technologiques et la globalisation capitaliste, ce qui fait que le moindre petit événement qui se produit quelque part dans le monde peut se révéler pour nous comme une sorte d'ouragan ou de catastrophe absolument immédiate. Donc, nous vivons dans le monde. Mmh. Et vivre dans le monde, ce n'est pas vivre du côté de la force dominante. C'est être du côté des causes perdues et des musiques tropicales, c'est-à-dire des choses qui sont secondaires, qui sont oubliées, qui sont méprisées.
Et les faire vivre, et les faire connaître.
Et les faire vivre. Pourquoi ? Parce que cette position-là, c'est une position où on a une vue beaucoup plus large. La position dominante verticale, paradoxalement, elle limite la portée, la vision. Un peu, on voit la vision de M. Trump, elle est complètement limitée dans le passé, limitée dans l'économie, limitée dans des positions complètement égoïstes, alors que la position des causes perdues et des musiques tropicales vous met dans une sorte d'ouverture que les anthropologues comme Michel Hagier connaissent très bien. Et puis, quand je pense à Michel, que j'admire beaucoup, et il me fait penser à Ségalène, qui est un médecin militaire qui rencontre comme ça la diversité du monde. Et contrairement à Pierre Loti, qui va rester plus ou moins colonialiste, Ségalène est complètement émerveillé par la diversité, les cultures. Et il va dire quelque chose qui est absolument importante. Il va dire qu'il faut d'abord, lorsqu'on rencontre la diversité, faire l'aveu de l'impénétrabilité, c'est-à-dire admettre qu'il y a là une étrangeté que nous devons apprendre à considérer et que nous devons apprendre à vivre, et que c'est en intégrant la différence, en vivant avec la différence et en participant de la différence avec ce que l'on est, que l'on arrive à progresser. Et le savoir de Ségalène est absolument important aujourd'hui. Il nous faut aujourd'hui vivre à l'échelle du monde, vivre du côté de la souffrance et surtout déserter les lieux de pouvoir. Et c'est pourquoi je m'oppose à la question de récit. L'idée de récit, pour moi, se met à deux fonctions. Le récit, c'est ce qui simplifie l'impensable du réel, la complexité inouïe du réel. Il y a toujours dans le récit l'idée de créer une petite bulle de réalité habitable, convenable, comprenable, etc. Et l'autre idée, c'est que le récit est au service d'une réalité. Être au service d'une réalité, c'est-à-dire une simplification du réel, c'est d'une certaine manière s'accorder avec un pouvoir, accepter des normes dominantes. Et c'est en cela que le récit n'est plus supportable aujourd'hui. Et le pire, c'est que toute cette armada de récits qui accompagnent les petites réalités culturelles ou civilisationnelles ont donné très souvent de grands récits totalitaires qui ont accompagné des exactions absolument incroyables. Le nazisme, le colonialisme, tout ça, c'était des grands récits. Et il me semble qu'aujourd'hui, la littérature doit sortir de cette histoire de récits et retrouver ce qui fait l'essence même de l'Homo sapiens, c'est-à-dire la narration du monde. La narration est beaucoup plus ouverte. La narration a la possibilité de s'inquiéter de toute la diversité, de tout le possible. Et la narration, c'est ce qui crée du lien entre ce qui existe et qui ne simplifie pas le réel. Cette idée-là me paraît importante pour essayer de nous confronter à toutes les difficultés que nous vivons aujourd'hui.
Michel Hagier est très sérieux, il prend des notes de tout ce que vous dites, Patrick Chamoiseau, et je vous observe en train de parler du monde et du pouvoir et de la nécessité de la littérature, peut-être plus encore en ce moment actuellement, avec les horreurs que nous vivons et auxquelles nous assistons chaque jour. Michel Hagier, ce pouvoir de l'écrivain est-il fascinant? Est-ce que vous vous rapprochez de cette nécessité de la narration, vous aussi, quand vous rendez compte des camps de réfugiés, des migrations, du racisme?
Ségalène, pour moi, est une référence aussi bien pour l'anthropologie que pour la poésie. Et donc, c'est vrai qu'il y a tout un courant qu'on appelle régulièrement l'ethnopoésie, par exemple, avec des ethnologues ou des anthropologues qui, à un moment donné, trouvent comme seule manière d'exprimer la relation sensible qu'ils ont eue dans une expérience, avec une altérité, de l'exprimer à travers une forme littéraire, poétique, parce que finalement, la mise en forme des données ne suffit pas pour dire cette expérience sensible.
Donc il y a un artiste qui sommeille en chaque ethnologue ?
Oui, oui, certainement. Je pense que que ce soit Marc Auger ou Georges Balandier, on fait des tentatives de romans ou d'écriture.
Alors plus et ou vous, moins, et plus vous, ou Michel moins, Hagier.
Non, mais je raconte souvent cet événement qui m'est arrivé lorsque j'étais à Salvador de Bahia et je travaillais dans le quartier Liberdad. Et je m'étais attaché, parce que je travaillais justement dans ces marges urbaines, attaché à une vieille dame qui s'appelait Maria das Cinzas, Marie des Cendres, et qui me disait « Ma famille est une honte et ma vie est un roman ». Et à ce moment-là, je découvre Texaco, et je me dis « Ben voilà, Marie Laborieux ».
Le grand livre de
Marie Laborieux, c'est Marie des Cendres. Et de ce point de vue-là, il y a un lien, évidemment. Alors, après, l'anthropologie, c'est un ensemble, effectivement, de temps qu'on passe pour
pour jouer le jeu de l'étrangeté qui a été évoqué, pour faire de l'ethnographie, pour essayer de comprendre comme un enfant. On arrive quelque part et on dit « je ne sais rien, mais quelque temps plus tard, je vais commencer à savoir des choses, simplement en apprenant dans la relation, en apprenant... »
Oui, et vous faites des livres ensuite, parce que vous allez transmettre aussi à nous, qui ne sommes pas des scientifiques, contrairement à vous, ce que c'est que les migrants. Vous écrivez en 2016 « Les migrants et nous », en 2018 « L'étranger qui vient ». Repenser l'hospitalité, ça m'intéresse ce mot d'hospitalité. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'est pas obscène, mais il est caduque.
Il est important,
Michel Agier.
Il est important pour l'anthropologie et c'est une question que dans le champ politique, médiatique, on associe à quelque chose comme la charité, comme la compassion, la religion éventuellement. Et là, pour le coup, à partir de mes enquêtes, à partir de mes travaux, d'abord en Afrique de l'Ouest, auprès des Haoussa, j'ai découvert des gens qui avaient tout un langage de l'hospitalité, qui avaient des mots différents des nôtres. Et donc, ça m'a amusé, par exemple, de dire, il existe un mot dans la langue Haoussa qui est le mot Zumunchi, que nous essayons de traduire par le terme que nous avons « hospitalité », qui lui-même est assez complexe, hein, parce qu'hostilité, hospitalité, c'est des choses qui sont très proches. Et je me suis rendu compte que lorsque les gens m'ont décrit qu'est-ce que c'est Zumunchi, c'était bien plus riche, bien plus complexe. Notamment, ça a intégré les contradictions qu'il peut y avoir dans la relation avec l'étranger, qu'on accueille, mais qui est sous sa dépendance, mais qui va devoir partir, mais avec lequel on garde une relation, etc. etc. Donc, il y a une complexité de la relation qui enrichit, d'une certaine façon, le mot hospitalité, bien au-delà... Bon, de cette dimension charitable, des premiers hospices de la charité au XVIe siècle, etc., etc. Donc on a dans l'enquête sur l'hospitalité quelque chose de tout à fait différent de ce qu'on entend chez les politiques et les médias qui vont nous dire « Ah, mais vous êtes bien gentil, mais... etc., la misère du monde, etc., etc. » C'est une réflexion beaucoup plus profonde vers laquelle porte ce mot et tous les mots qui vont avec, d'une certaine façon.
Michel Agier, j'ai entre les mains racisme et culture également au seuil. Ça, c'est votre dernier bouquin. Vous réfléchissez sur les racismes et sur ces deux termes, racisme et culture. On pourrait écouter votre maître, Lévi-Strauss. C'était dans les années 70, au tout début, à l'UNESCO.
Il n'appartient pas à un ethnologue d'essayer de dire ce qu'est ou ce que n'est pas une race. Car les spécialistes de l'anthropologie physique qui en discutent depuis près de deux siècles ne sont jamais parvenus à se mettre d'accord et rien n'indique qu'ils soient plus près aujourd'hui de s'entendre sur une réponse à cette question. Selon certains anthropologues, l'espèce humaine a dû donner très tôt naissance à des sous-espèces différenciées entre lesquelles se sont produits au cours de la préhistoire toutes sortes d'échanges et de métissages. Si donc on essaye de faire remonter les différences raciales aux origines, on s'interdit par là d'en rien savoir, et ce dont on débat en fait n'est pas la diversité des races, mais la diversité des cultures.
Voilà, on oublie le mot « race » sur le plan biologique depuis longtemps, maintenant la science le dit. Et déjà dans les années 70, Patrick Chamoiseau, Lévi-Strauss, vante la diversité des cultures, ce que vous n'arrêtez pas de faire depuis que vous prenez la plume.
Oui, oui. L'idée d'hospitalité est importante de ce point de vue-là, parce que ce n'est pas simplement une sorte de dispositif culturel ou social, c'est vraiment une catégorie de l'esprit. Le poète, par définition, il a une hospitalité mentale, une capacité à recevoir le réel, les mystères du réel, les différences, les autres cultures. Et tous ceux qui sont sensibles à la diversité du monde et à la préservation de cette diversité-là sont dans une situation existentielle, d'hospitalité existentielle. Il faut bien comprendre que l'hospitalité, ça fait partie du poétique humain. Et le poétique humain, c'est la partie la plus précieuse de l'humain. Pourquoi les anthropologues ont été absolument précieux. Lorsque j'ai écrit Frères migrants, pour protester un petit peu contre le fait que la Méditerranée devenait un grand cimetière,
oui, vous en parlez
je me
aussi.
Suis nourri des textes de Michel. Parce que Michel, il a cette espèce de vision sur le monde contemporain, une sorte d'hospitalité cognitive qui lui permet de se porter ou de porter sa réflexion scientifique sur les lieux les plus déterminants. Parce que les lieux de souffrance sont toujours les lieux les plus déterminants.
La Méditerranée Méditerranée est un immense sépulcre, je vous cite Patrick Chamoiseau, on y meurt, on y laisse mourir, on y regarde mourir, on tolère un océan de déchéance imposé à des hommes, des femmes, des enfants, et dans lequel, où que l'on soit, où que l'on aille, on se retrouve à patauger sans aucune innocence.
Exact, nous sommes complètement complices d'une certaine manière de ce qui se passe là, mais c'est le signe qu'il y a un assèchement de l'imaginaire de l'époque vis-à-vis de ce monde qui est en train de changer. Le monde devient une entité mobile, c'est déjà une entité relationnelle, c'est-à-dire que toutes les cultures, les civilisations sont en contact. C'est une entité qui est complètement dominée par la globalisation capitaliste avec tous ses effets délétères, mais c'est aussi une entité qui est désormais portée par les dynamiques individuelles de ces individus qui portent le monde en eux et qui vont suivre ce que Sapiens a toujours fait. Ils vont suivre des rêves, ils vont suivre des idéaux, ils vont suivre les nécessités du prosaïque et ils vont de plus en plus se déployer dans le monde. Donc il y a un monde de mobilité que nous devons pouvoir imaginer. Et avant de pouvoir l'imaginer politiquement, il faut que nous puissions l'imaginer poétiquement. Alors, les travaux de Michel sont absolument essentiels.
C'est intéressant de voir que l'un et l'autre, vous vous lisez. Vous avez aussi lu forcément Édouard Glissant, Fanon, Césaire, pour pouvoir écrire vos propres livres et poursuivre votre travail d'ethnologue et d'anthropologue.
Fanon, beaucoup, oui.
Beaucoup, Fanon, beaucoup, bien sûr. Et Glissant, Édouard Glissant, c'est une sommité, bien sûr, un intellectuel, un écrivain, un poète aussi, quelqu'un de l'ordre du sensible, seulement des idées, comme vous l'êtes, si vous le permettez, sans vous flatter. Patrick Chamoiseau, vous étiez ami, et comme vous, il allait vers l'essai, il allait vers le roman, vers la poésie. Vous êtes aussi scénariste pour le cinéma, vous écrivez des BD, vous avez signé une adaptation théâtrale et vous avez écrit des chansons. La preuve, on en a une, celle du groupe haïtien Tabou Combo. Vous avez évoqué la détresse haïtienne dans une chanson intitulée Yo.
Les chaque moun a bralé yon bout, Haïti dans la déroute, la misère vagabout. Tout pays a capran bon fait, personne va carré fait, yo prend chimel en mer. Yo kilbité dans fond bateau, bien sac mourir dans l'eau, vie vent cadrivé yo. Pas haïtien, c'est pas marin. Quand on t'y a tout main, pour y'a pas gain chimère. Y'a un petit geste pour y'a, y'a une tendresse pour y'a, y'a une faveur pour y'a, y'a l'honneur pour y'a, y'a une épaule pour y'a, y'a une parole pour y'a, y'a une bonté pour y'a, l'amitié pour y'a. Chaque moun a fait plein de yakoute, Haïti dans la déroute, la misère pape jamboute. Tout pays a fait grigi, petit qui prend courir pour y aller Miami. Yo qu'il bite dans fond bateau, yo fait fausse couche dans de l'eau, mauvais temps barré yo. Américain, pavlé haïtien. Yo fait yo retourné, passé yo pas Cuba. Yo petit geste pour yo, yo tendresse pour yo, yo faveur pour yo, yo l'honneur pour yo, yo épaule pour yo, yo parole pour yo, yo bonté pour yo, l'amitié pour yo.
Tabou Combo, c'était Yo, et on voit que même quand vous signez des chansons, Patrick Chamoiseau, vous vous engagez, vous dites la littérature peut parler de la détresse du monde.
Ouais, les Bob People haïtiens, c'est absolument incroyable. Il y a beaucoup d'années que j'ai écrit ça, et c'est une chanson qui a eu beaucoup, beaucoup de succès et a alerté un petit peu sur les phénomènes migratoires dans la Caraïbe et dans les Amériques.
Quel que soit l'art, finalement, on peut passer un message.
Je crois qu'il y a un mode de connaissance. Lorsque je me suis intéressé aux migrants, c'est qu'on entendait que les spécialistes, les économistes, les politologues, toute espèce d'expertise, et les artistes et les écrivains et ceux qui sont de l'ordre du sensible ont tendance à ne plus vouloir traiter les problèmes. Tous les problèmes deviennent des problèmes économiques.
Oui.
Alors que les problèmes humains sont beaucoup plus larges que les problèmes économiques.
Moi, ce que je retiens, entre autres, de vous, Patrick Chamoiseau, parce que vous le dites même devant des gamins en Martinique, quand vous êtes dans une université, avec des profs ou dans des écoles avec des enfants, vous dites « soyez créatifs dès le plus jeune âge et permettez à vos enfants de l'être ».
Exact, parce que je me suis aperçu en étudiant un petit peu le système des plantations esclavagistes, que ce que la domination supprimait lorsque l'Africain a été réduit en esclavage dans les plantations, ce qui était atteint le plus rapidement, de manière la plus déterminante, c'était sa capacité à créer, sa créativité. Mmh. La créativité, c'est ce qui vous permet de modifier les données du réel qui vous est imposé, de la réalité qui vous est imposée, pour produire autre chose. Ce qui fait que pendant l'esclavage dans les plantations américaines, on a eu la résistance des nègres marrons, ça c'était important, mais la résistance la plus fondamentale, la plus radicale et la plus, je dirais, productive a été celle des créateurs. Les tambouillers, les danseurs, les chanteurs, les conteurs.
Chanter dans les champs de coton.
Chanter dans les champs de coton, et puis compter aussi dans les champs de coton, dans les champs de canne à sucre, ça va donner toute la littérature, ça va donner le jazz, ça va donner le reggae. Donc la colonisation a créé un phénomène relationnel, et là ça a dégagé un champ de créativité absolument exceptionnel. Nous ne devons pas perdre ça, parce que le monde est devenu relationnel. Nous avons à notre disposition, à la disposition de notre imaginaire, dans tous les domaines où nous travaillons, nous avons un champ de créativité possible à partir du champ relationnel des cultures et des civilisations.
Je rappelle le titre, comme ça les auditeurs iront peut-être écouter et chercher d'autres chansons de Patrick Chamoiseau. Tabou Combo, Yo.
Le Grand Atelier. Vincent Josse, sur France Inter.
Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le problème de l'Afrique, et permettez à un ami de l'Afrique de le dire, c'est de cesser de toujours répéter, de se libérer du mythe de l'éternel retour. C'est de prendre conscience que l'âge d'or qu'elle ne cesse de regretter ne reviendra pas pour la raison qu'il n'a jamais existé.
Je vois un petit sourire sur les visages de mes invités, Patrick Chamoiseau, romancier, essayiste, poète, et puis notre ethnologue, anthropologue, Michel Agier, et grand professeur. C'est en 2007, en juillet 2007, dans une université de Dakar, que Nicolas Sarkozy, alors président, tient ce discours, discours écrit par son conseiller, Henri Guénot. Et je me souviens que le président sénégalais, un an après, avait pris la défense de Nicolas Sarkozy en disant « Sarkozy a été victime de son nègre ». C'est beau ça, non ? En revanche, je vais vous en parler, Michel Agier, enfin vous en parlez, vous écrivez sur ce discours. Ce discours, il ouvre la porte, peut-être même malgré lui, au racisme.
Un racisme des gouvernants, un racisme des élites politiques. Et c'est préoccupant, effectivement, comme cela revient, parce qu'on peut considérer aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, reprend systématiquement ce langage, jusqu'à vouloir rejouer, par exemple, la fameuse scène de l'identité nationale, qui est remise devant pour, d'une certaine façon, désigner, racialiser des boucs émissaires et les tenir à l'écart, parce qu'il y aurait un noyau modèle du français blanc, évidemment, et qui ne doit pas être mêlé. C'est complètement l'inverse de tout ce qu'on dit. C'est-à-dire, on est dans un monde mêlé, nos vies sont toutes de plus en plus cosmopolites, donc nous nous mélangeons, nous nous hybridons tous les termes, aussi bien sur le plan génétique, d'ailleurs, que sur le plan culturel. Tout ça est en mélange. Donc il y a une espèce de dérision à voir des responsables politiques vouloir nous faire chercher l'étranger indésirable dans un monde qui est au cœur même du monde mêlé.
Et vous insistez, et... Michel Agier, dans le livre, vous dites « La responsabilité des politiques dans la production du racisme est engagée depuis longtemps ».
Oui,
ça date pas de Nicolas Sarkozy et d'Henri Guénon.
Bien sûr, bien sûr. Ça va chercher dans une histoire très ancienne. Moi, je pars la réflexion, on va dire, sur la formation du racisme contemporain. On va dire, elle part à peu près du milieu 19e siècle, quand on passe d'un monde formé autour de l'esclavage à un monde formé autour des colonies et de la colonisation. Mmh. Et donc, d'une certaine façon, la transition de ce pouvoir européen sur le monde devient un pouvoir de la couleur blanche ou de la race blanche sur toutes les autres races.
Alors ça, c'est très important. Je pose la question, si vous le permettez, Michel Agier, à Patrick Chamoiseau. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que la culture blanche est nécessairement raciste ?
Non, je ne pense pas. Il y a une Europe quand même... Il y a une Europe, je ne dirais pas les Lumières, parce que les Lumières se sont accommodées de beaucoup de choses, mais quand même, il y a une pensée européenne qui a beaucoup servi aux décolonisations et qui nourrit notre lutte. Donc, nous avons surtout rencontré l'Europe des marchands, des conquistadors et des conquérants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque... il a fallu organiser la traite des Africains vers le Nouveau Monde et dans les champs de coton et de canne à sucre. Il a fallu justifier le fait que des millions de personnes aient pu être jetées dans des bateaux négriers dans des conditions qui étaient absolument inhumaines. Et là, on a inventé le nègre. Et c'est là que le racisme va prendre une ampleur industrielle. Et comme finalement le capitalisme a pris directement le relais de la colonisation, le capitalisme a gardé intact tous les éléments de la colonisation, c'est-à-dire conquête, domination, réification du vivant et aussi racisme, infériorisation de tout un phénotype. Le phénotype nègre, c'est ce qu'il y a de plus déprécié dans toutes les cultures du monde.
Et à fait dire à Aimé Césaire, et vous en parlez, Michel Agier, le nègre t'emmerde.
Oui, oui.
Et je crois que plus tard, Baldwin dira « I'm not your negro
voilà. ». Oui. Je ne suis pas votre nègre. Oui. Ou, je le mentionne en épilogue de l'ouvrage, Rebecca Chaillon, la performance théâtrale qui s'appelle « Carte noire nommée Désir », où l'une des autres actrices dit « Je m'appelle Fatou, mais je ne suis pas votre Fatou ». Et à la fin, elle dit « Ben voilà, on a essayé de vous démontrer que nous ne sommes pas qui vous croyez que nous sommes, et maintenant, laissez-nous tranquilles ». Et donc, je pense que là, il y a vraiment une réciprocité dans l'attention au racisme à la fois historique mais toujours contemporain, que j'appelle une infrapensée raciste, c'est-à-dire qui est toujours là. Et là, je ne montre pas du doigt des électeurs du Front National ou je ne sais quoi. Non, je dis, nous avons dans la société française et plus largement européenne, du fait de l'histoire coloniale et impériale, une infrapensée raciste qui est pratiquement laissée en l'état. Sauf qu'elle est plus ou moins basse ou plus ou moins haute dans l'explicitation.
Et vous expliquez aussi...
on est dans un moment où ça remonte, si vous voulez, on le voit bien.
Oui, mais vous dites qu'on peut lutter. On peut lutter avec la culture. Et vous dites qu'on combat ce fléau avec la poésie. On en a parlé tout à l'heure.
Absolument.
Même quand on est anthropologue, ethnologue, on combat ce fléau avec le théâtre et même le carnaval. Dites-vous.
Absolument, c'est le principe de la performance. Pour moi, et c'est très proche, par exemple, du conte. La performance culturelle, la performance artistique, c'est quelque chose qui vient d'un vécu, des gens qui ont une existence qui les assiège, une existence qui les exclut, qui les opprime, une existence, par exemple, produite par le racisme, et qui vont dire, à un moment donné, qui vont utiliser un espace qui est hors du commun, et ça c'est important, pour créer la situation de la performance, déclamer un poème, faire un conte, entrer dans la rue du carnaval, monter sur une pièce de théâtre ou simplement être sur une place où une performance théâtrale va être donnée et dire à ce moment-là, dans cet espace-là, qu'on va considérer comme un espace exceptionnel par rapport à l'ordinaire tel qu'il est, on va dire, ben, nous ne sommes pas ce que vous croyez, nous sommes d'autres personnes et nous avons une histoire et ça n'est pas l'histoire que vous racontez.
Patrick Chamoiseau.
Oui, oui, chez nous, le carnaval a toujours été un lieu de résistance secrète parce que autant l'Africain était complètement brimé, il fallait abandonner tous les signes, les symboles, les chants, la langue, etc., africaine. Et les esclaves utilisaient le moment du carnaval pour faire ressortir tout ce qui leur restait, toutes les traces de l'Afrique ressortaient à ce moment-là. Donc c'était un moment à la fois de créativité culturelle, mais c'était aussi un moment de résistance qui était absolument secret. Donc dans la danse, dans la joie, dans les couleurs, dans tout ce qu'ils mettaient en œuvre, ils pouvaient retrouver leur âme africaine et à partir de là, récupérer leur humanisation. Et c'est ça toute la difficulté aujourd'hui que nous avons. Nous sommes aujourd'hui dans une nécessité relationnelle. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous ne pouvons envisager notre construction que dans cet espace où toutes les cultures, tous les imaginaires, toutes les langues, tous les dieux, etc., se sont rencontrés. Et l'individu, aujourd'hui, il se réalise à l'échelle de cette réalité-là.
Mais est-ce que c'est une réalité, Patrick Chamoiseau ? Est-ce que vous n'êtes pas un utopiste ?
Non. Attends, il faut glissant si disait que l'utopie c'était ce qui manquait au monde, c'est-à-dire que mais l'utopie c'est ce qui nous permet d'agir. Si on n'a pas d'utopie, on n'a pas l'énergie qu'il faut pour agir.
Vous voulez écouter votre ami Glissant?
Oui, allons-y.
Édouard Glissant, qui comme vous était un résistant, Patrick Chamoiseau.
Le problème qui se pose pour des Antillais est celui de renouer avec une histoire dont ils ont perdu le sens et le contact. Et je crois qu'il n'y a pratiquement rien de plus terrible pour un homme que de n'avoir pas d'histoire, de n'avoir pas de passé. Quand on a un passé, quand on a une histoire, on est libre de s'en défaire ou de s'en débarrasser ou de s'en couper. On peut dire « ça m'embête, toutes ces histoires-là », mais on a fait un choix. Quand on n'en a pas, ou quand on a oublié collectivement son passé, eh bien, il s'ensuit un déséquilibre terrible pour l'être et pour la collectivité. Et je crois que c'est une des fonctions de la littérature, en tout cas pour moi, que d'essayer de combattre ce déséquilibre de l'être et de lui redonner une certaine santé.
C'est émouvant d'entendre Édouard Glissant.
Oui, c'est émouvant, et puis c'est très juste. Hein. Il y a eu tout un travail de récupération, et dans le travail poétique et littéraire qui a été fait de récupération, il y a eu bien sûr cette récupération de l'Afrique. Hein. Césaire, l'Afrique avait été occultée, méprisée, oubliée. Césaire a fait ce formidable travail de restauration de l'âme américaine, l'âme africaine des Amériques.
Hein. Dans son écriture, et tout en s'engageant aussi en politique.
Exact. Hein. Et toute une fois que cette récupération a été faite, Glissant a ajouté la notion de relation. Et Glissant nous dit, effectivement, on ne peut pas comprendre les Amériques si on ne ramène pas toute la présence africaine. La présence africaine est déterminante. On ne peut pas comprendre le jazz si on ne ramène pas la polyrythmie africaine. Mais il dit qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est produit dans les Amériques. Et il va aller beaucoup plus loin que la négritude. Il va dire, mais ce qui s'est produit là, c'est un phénomène absolument culturel complètement nouveau, qui est le phénomène de créolisation.
Oui.
Et donc ce mélange accéléré, massif, brutal des cultures et des civilisations. Et le principe actif de ce mélange, c'est la relation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un être humain, l'honnête homme d'aujourd'hui, c'est un honnête homme qui se construit en relation. Et se construire en relation, ça veut dire qu'il nous faut assumer, comme le disait Deleuze, tous les devenirs minoritaires. En fait, il y a une condition nègre aujourd'hui dans le monde qui a été créée par ce racisme qui vient de l'esclavage et de la colonisation. Récupérer cette condition nègre, l'assumer, c'est le devoir de tout humaniste contemporain relationnel.
Vous parlez aussi de la condition femme, LGBT.
Toutes les minorités aujourd'hui, ce sont des devenirs que nous devons assumer. Ce qui fait qu'on n'a pas à s'enfermer dans cette histoire de racisation, de race, etc. Effectivement, c'est une ressource avec laquelle nous devons construire notre relation, je dirais, avec le monde, la totalité monde. Et cette relation avec la totalité monde, qui est une relation dans laquelle on se réalise en faisant attention à l'autre, on se développe en développant l'autre, on s'accomplit en veillant à l'accomplissement de l'autre. Et l'autre, c'est pas seulement l'étranger, c'est tout le vivant, c'est toute la sphère du vivant, c'est toute la biosphère de la planète, et c'est tout le cosmos. Donc ce champ relationnel absolument, absolument vertigineux.
Vous auriez dû inviter une autre personne dans notre grand atelier, Patrick
Chamoiseau. Oui, mais c'est vous qui m'avez limité. Hein.
Oui. Moi, j'aurais voulu que vous invitiez Donald Trump.
Ah, oui.
Vous auriez des choses à lui dire.
Oui, mais il représente tellement le passé, c'est assez incroyable.
Mais le passé est le présent.
C'est vraiment le passé, c'est-à-dire on se retrouve dans une situation que le monde a déjà connue, le vieil esprit colonialiste, dominateur, la jungle, la lutte de tous contre tous, la réduction de tout au profit, enfin bon, c'est quelque chose d'absolument épouvantable.
Est-ce qu'il vous rend inquiet, puisqu'il est totalement opposé à vos propres idées, à ce que vous défendez dans l'idée d'aller vers l'autre,
voilà,
et d'être assez fort de sa culture
c'est ça,
pour entamer un discours.
On se dit, tout le monde moi, je reviens des États-Unis et j'ai vu comment tout le monde était sidéré. Aujourd'hui, personne ne comprend. Et je me dis que c'est quand même l'idée que la littérature puisse s'opposer à Trump, ça paraît comme ça d'emblée complètement dérisoire.
Avec un tout petit livre aussi.
Un tout petit livre, ouais. Mais j'ai compris quelque chose qui a été sous nos yeux pendant longtemps. Lorsque Césaire s'est attaqué à la colonisation, quand Césaire, dans les années 30, écrit le cahier de retour au pays natal, qui est un texte complètement magnifique, obscur, oui, etc., la colonisation domine le monde. C'est-à-dire qu'il y a une réalité coloniale qui est l'alpha et l'oméga de tous les imaginaires de la planète. Et malgré ça, Césaire arrive à dépasser cette réalité-là et à deviner qu'on ne peut pas réduire le monde à la réalité coloniale. Oui. Donc, ce qu'il faut nous dire, c'est que nous ne pouvons pas réduire notre monde à cette réalité que Donald Trump essaie de créer. Le monde est beaucoup plus vaste, le réel du monde est beaucoup plus puissant. Et il y a des choses, l'alternative à Trump est déjà là, l'autre monde que nous devons construire est déjà là, et c'est pourquoi les arts et la littérature sont importants, parce que toutes les stimulations esthétiques, cette capacité à aller au-delà des limites du réel, de la réalité, pour regarder la complexité du réel et de cette complexité du réel ramener de nouvelles possibilités, ça c'est l'objet de l'art, c'est l'objet de la littérature et bon, fondamentalement c'est l'objet des politiques culturelles. Oui. Ce qui fait que contre Trump, il nous faut de la culture.
You said don't hide, just walk in a straight line. You apologize when you're right. You said straight spine. Take one step at a time. Just keep on breathing and you'll be fine. So I took a breath in and I let myself shout. Felt the air on my skin and let my hair down. I don't really know if I'll come back to this town, but at least I'm here right now. With my heart between your hands in Phoenix, knew that I'd survive 'cause you made me believe it. When I'm under attack and my world feels like it's coming to an end, you say don't break, just bend. You say don't break, just bend. So if you free fall, can't help but hit the wall. Promises not your curtain call. Swear there's so much more, so much that's wonderful, and I'll be by your side through it all. So just take a breath in, you can let yourself shout. Feel the air on your skin and let your hair down. I don't really know if we'll come back to this town, but at least we're here. With your heart between my hands in Phoenix, knew that we'd survive 'cause you made me believe it. When you're under attack and your world feels like it's coming to an end, I'll say don't break, just with my heart in your hands spilling over and my head resting right on your shoulder. When I'm under attack and my world feels like it's coming to an end, you say don't break, just bend, bend, bend. You say don't break, just bend, bend, bend. You say don't break, just bend.
La musicienne britannique Hoptala Phoenix.
Le grand atelier sur France Inter.
Patrick Chamoiseau, est-ce que vous connaissez Roubaix ?
J'ai dû passer par là. Dans mes pérégrinations.
Voilà, depuis pas mal d'années maintenant, il y a un lieu, une sorte de musée, c'est un musée qui s'appelle La Piscine, c'est un lieu magnifique. Il y a là-bas une conservatrice, entre autres, en charge des collections Beaux-Arts, qui s'appelle Adèle Taïfé. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comment faut le définir d'ailleurs, La Piscine ? C'est un musée.
C'est un musée, c'est aussi un lieu important, puisque le musée a été installé en 2001 dans une ancienne piscine publique et dans des anciens bains municipaux. principaux de style art déco.
Et vous avez conservé, enfin vous, l'équipe en place à l'époque, a conservé les lieux dans un état magnifique.
Oui, tout à fait. Il y a eu un réaménagement, il y a eu une transformation de la piscine en musée qui s'est effectuée en 2001 par l'architecte qui a aussi été l'architecte du musée d'Orsay, à savoir Jean-Paul Philippon. Et donc, on a gardé l'esprit du lieu, les cabines de douche, les baignoires et aussi une lame d'eau centrale qui rappelle la présence du bassin.
Il va falloir aller très bientôt voir la nouvelle exposition, je dirais même voir les nouvelles expositions que la piscine présente à Roubaix. Ça commence le 1er mars. D'abord, il y a Rodin, Bourdel, Corps à Corps. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas? Et c'est quoi ce corps à corps entre les deux sculpteurs?
Donc c'est une exposition qui propose un face-à-face entre deux grands maîtres de la sculpture. Un qui est très connu du grand public, Auguste Rodin, créateur de la Porte de l'Enfer, du Penseur ou du Baiser. Et un peut-être un petit peu moins connu du grand public, oui, mais qui est une figure centrale de la sculpture et de la modernité en sculpture au XXe siècle.
Il y a aussi son
Antoine
musée
Bourdel.
À Paris.
Tout à fait.
Antoine Bourdel.
Oui, je vous invite tous à aller voir son musée à Paris, qui est dans son ancien atelier de l'avenue du Maine, et qui est donc le musée Bourdel de
qu'il
Paris.
Est-ce qu'il a été l'apprenti de Rodin?
Alors, c'est un des mythes qu'on essaye de déconstruire dans cette exposition, puisque beaucoup disent qu'il a été l'élève de Rodin. En réalité, la notion même d'élève de Rodin peut être remise en cause, puisque c'est Brancusi lui-même qui, en passant par l'atelier de Rodin, disait que rien ne poussait à l'ombre des grands arbres. Et ça dit bien ce que ça veut dire, c'est que Rodin a eu une telle influence et une telle importance dans cette scène de la sculpture du XXe siècle qu'ensuite tout un tas de sculpteurs essayent de s'en détacher et c'est notamment le cas de Bourdel.
Est-ce que sa sculpture est très différente de celle de Rodin?
C'est ce qu'on essaye de montrer et de nuancer dans l'exposition, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques communes, croisées à leurs deux manières de voir leur art. Et en même temps, ils se distinguent l'un de l'autre. Rodin est plus du côté du modelé, d'une sorte d'expressivité de la matière, du muscle et de l'expression qui sortirait de la matière elle-même. Alors que pour Bourdel, il disait lui-même que la sculpture devait être l'ère de la construction et de l'architecture. Et donc, il revient à une forme de synthétisme dans les formes de la sculpture et qui va ouvrir la voie à tout un pan de la modernité. Et cette exposition a vraiment été pensée de manière thématique. Donc, ce n'est pas un parcours chronologique que nous suivons, mais nous traversons des grandes thématiques, la question du fragment, la question de la sculpture dans l'espace public, la question aussi de l'hybridation, des êtres hybrides qui sont présents dans l'œuvre de Rodin et dans l'œuvre de Bourdel, autant de grandes thématiques qui parcourent l'œuvre de l'un et de l'autre de manière différente et qui ouvrent après eux un nouveau chapitre de la modernité.
Alors ça, c'est la première grosse exposition de la piscine et il ne faudra pas oublier d'aller voir une autre exposition avec un nom moins connu des auditeurs mais qui est connu dans le domaine des arts plastiques, c'est Elsa Saal. Est-ce qu'elle a un lien, elle est sculptrice, est-ce qu'elle a un lien avec ce qu'a pu faire Rodin, par exemple?
Alors, Elsa Saal, avant d'être sculptrice, elle est céramiste, et c'est vraiment quelque chose qu'elle revendique, le travail de la céramique. Mais il y a un lien très très fort dans son travail, de manière générale, avec les grandes figures de l'histoire de l'art, qu'elle rejoue, qu'elle détourne, non sans humour parfois, et c'est le cas de Rodin, puisque la série des pole dance qu'elle expose dans les cabines de bain de la piscine, au rez-de-chaussée et au premier étage du bassin, sont inspirées des œuvres de Rodin, et notamment des dessins qu'il a faits d'après la danseuse Alda Moreno, et qui sont des fragments de gestes dansés, parfois très suggestifs, et que Elsa Saal détourne dans des œuvres en céramique.
Donc il y a des membres, par exemple, qui occupent une cabine.
Oui, complètement.
Un bras, une jambe.
Et d'ailleurs, cette exposition s'appelle, de manière assez drôle, c'est toujours présent dans l'œuvre de Elsa Saal, Pool Dance, en rapport avec le lieu, et ces espaces de cabine qui dévoilent et qui en même temps cachent.
Et pour ceux qui ont fait portugais à l'école, comme moi, et pas anglais, pool, ça veut dire piscine.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Adèle Taïfé. Je précise que cette expo Elsa Saal est conçue par Karine Lacman, qui est une grande spécialiste de la céramique contemporaine. C'est jusqu'au 1er juin.
C'est jusqu'au 1er juin,
et ça commence le 1er mars. On parlait donc des expositions nouvelles qui vont commencer à la piscine à Roubaix avec Adèle Taïfé, que je remercie du voyage.
Merci à vous.
Patrick Chamoiseau, vous êtes venu avec un livre, mais vous êtes venu aussi avec un conseil pour nos auditeurs. Un conseil, je ne sais pas, de lecture, un conseil d'exposition, pourquoi pas, de sculpture, de peinture. Vous avez carte blanche.
Il y a eu au Panthéon une exposition d'un jeune artiste qui s'appelle Raphaël Barontini.
Ah oui, un peintre.
Voilà, c'est ça. Donc il fait des installations à partir de grands drapés, des textures textiles absolument incroyables. Et je lui avais fait à cette occasion un petit texte qui évoquait une période très importante durant l'esclavage, qui est celle des convois. Les convois, c'était les esclaves africains dans les plantations. Ils avaient créé des espèces d'organisations avec un roi et une reine. Et ils sortaient pendant le carnaval ou pendant les fêtes religieuses en grand apparat. Et ils reconstruisaient leur corps abîmé, leur corps nié, leur humanité blessée. Ils étaient complètement transfigurés par une sorte de déploiement créatif de couleurs, de vêtements. Et Raphaël Barontini a repris cette idée-là et il fait quelque chose d'absolument magnifique. Et son livre, Le Panthéon de la Relation, il vient de paraître et il faudrait absolument l'avoir et en tout cas essayer de retrouver ce qu'il va faire. Je sais qu'il va exposer prochainement au Palais de Tokyo, mais il faut aller voir ce qu'il fait. Et c'est vraiment un métamétis, quoi. C'est vraiment un métiste planétaire qui utilise pratiquement toutes les cultures du monde pour fonder des formes plastiques absolument nouvelles.
C'est tout ce que vous aimez. Je pense que vous n'avez pas hésité à écrire ce texte.
Ah, ça a été très éclairant.
On le lit, Le Panthéon de la Relation de Raphaël Barontini. Ça coûte 35 euros. C'est chez JBE Books. Texte de Patrick Chamoiseau, entre autres. Hein. Michel Agier, alors là, vous allez nous proposer quelque chose qui n'a jamais été proposé dans le Grand Atelier. Bravo, c'est un podcast.
Oui, bien sûr. Parce qu'il y avait un podcast tout à fait passionnant qui s'appelle Afrotopique, et donc qui a été créé en 2019 par Marie Yemta Moussanang, et qui se présente comme le podcast qui pense le présent depuis les Suds et les mondes africains en particulier. Et donc, Marie Yemta reçoit des intellectuels, des chercheurs, des militants de terrain qui essayent de penser un peu le grand basculement du monde que nous vivons aujourd'hui, et surtout qui essayent de chercher des pistes de transformation à partir du monde social, à partir de l'expérience, des expériences de solidarité.
Et est-ce que des gens comme nous, qui ne sommes pas des spécialistes, pouvons écouter ce podcast ?
Bien sûr, oui. Bien sûr. Alors, on y accède immédiatement sur le site de l'association du groupe Afroculture, et il est évidemment accessible à tout le monde. Il y a 50 dialogues comme ça qui sont déjà accessibles sur ce podcast.
Merci Michel Agier de votre conseil et de votre présence aux côtés de Patrick Chamoiseau. Racisme et culture, c'est votre livre, Michel Agier, au seuil. Et Patrick Chamoiseau veut dire un mot, malheureusement un petit mot, un mot court.
Non, le livre merveilleux de Michel Agier nous montre que le racisme est un récit. C'est un récit qui a été construit et que nous avons intériorisé, que la conscience mondiale a intériorisé. C'est vous montrer la puissance des récits. Et il nous faut aujourd'hui lutter contre les récits et retrouver la liberté des narrations. Mais ce qui est extraordinaire dans ce qu'a fait Michel, c'est vous montrer comment l'affaire a été construite. Et aujourd'hui, ce racisme qui est en train de fleurir politiquement un peu partout, c'est quelque chose qui a été construit par une mentalité coloniale et même capitaliste absolument terrible et qui nous s'impose à nous. Les récits sont puissants et il nous faut les défaire aujourd'hui.
En tout cas, vous gardez encore une fois le sourire. Moi, ça me marque. C'est ça que je vais retenir aussi de l'émission. C'est que tout n'est pas fichu. Patrick Chamoiseau, tant que les écrivains, entre autres, sont là. Merci beaucoup.
Merci.
Lucie Lemarchand réalise l'émission préparée avec Louis Tempéro, Virginie Rouzic, Irma Daniche, Valentine Chedebois programme la musique et Benjamin Wagon assurait la technique.